Pour l'amour de Sion, Israël, mythe et réalité. Bonjour, nous sommes Stéphanie Soufir et Michael Barzvi. Nous sommes à Radio TAF à Tel Aviv. Nous vous proposons une série d'émissions dédiées à Israël et au sionisme. À travers l'histoire, les grands événements qui ont marqué Israël, les personnages qui l'ont façonné, les idées et les mouvements de pensée qui ont forgé cette histoire. Notre but est de comprendre, d'expliquer, de donner des faits et des éléments de réponse aux questions que tout le monde se pose sur Israël et le sionisme. Aujourd'hui, nous allons parler du kibboutz. Qu'est-ce que le kibboutz? Comment a-t-il été créé? Alors, Michael, bonjour.
Bonjour, Stéphanie.
Peux-tu nous en dire plus sur comment a été créé le kibboutz? Comment est venue l'idée?
Le kibboutz, c'est un mythe aussi, d'une certaine façon, d'Israël. C'est lié vraiment à l'histoire du sionisme. Le kibboutz a été une entreprise, une aventure, je dirais, exceptionnelle, peut-être unique en son genre, une aventure révolutionnaire. Ce sont des gens qui étaient des rêveurs, qui ont voulu changer le monde à l'époque, au début du XXe siècle, qui étaient animés par une forme d'idéal, qui était un idéal à la fois égalitaire, mais aussi avec probablement la vision d'un homme nouveau. De forger finalement un homme nouveau. Et comme on arrivait sur une terre qui était, je dirais, une terre vierge, une terre qui n'était pas cultivée, et que les Juifs qui venaient étaient, comme on les appelait, des pionniers, mais qui venaient probablement, non pas de... Ce n'étaient pas des agriculteurs, ce n'étaient pas des paysans, c'était des gens qui venaient justement pour changer de vie. Et ça a été un projet, un projet courageux, finalement, de créer un homme nouveau par le travail, par de nouvelles valeurs, par l'égalité. Et puis, ce rêve qui s'est forgé était un rêve dans l'idée de construire, finalement, l'état de construire Israël, de développer la terre d'Israël. Et ce rêve, petit à petit, en l'espace de quelques décennies, il a fini par s'évanouir d'une certaine façon. Et aujourd'hui, le kibboutz... représentent d'un côté, il y a de très belles choses dans les kibboutzim, mais ils ont été petit à petit, depuis les années 80, les kibboutzim ont fini par se privatiser. Et aujourd'hui, ça représente, je dirais, une forme de... une certaine façon d'habiter à la campagne, je dirais, mais l'idée du kibboutz, de la communauté, de la vie, avec toute cette forme d'égalité, cette démocratie directe et tout ce qu'on connaît du kibboutz et dont on va parler, tout ça a un petit peu disparu aujourd'hui. Et aujourd'hui, les gens qui vivent dans le kibboutz, ils mènent finalement une vie, je dirais, très capitaliste, peut-être même très bourgeoise. Et aujourd'hui, certaines des industries de pointe, de la technologie et même des grandes start-up israéliennes se trouvent dans des kibboutzim. Et donc, les membres du kibboutz se partagent les dividendes de ces grandes entreprises, de ces start-up qui ont été vendues ou qui aujourd'hui produisent à la fois de l'argent, mais aussi font de l'exportation. Et donc, curieusement, le mouvement kibboutzim, contrairement à ce qu'on peut penser dans l'image comme ça qu'on a du sionisme, ça n'a jamais été quelque chose de non seulement de majoritaire, mais ça a toujours été un phénomène extrêmement minoritaire. C'est-à-dire que même... dans la plus grande période, je dirais, du kibboutz, les membres du kibboutzim n'ont jamais représenté plus de 7% de la population. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont moins de 3% ou quelque chose comme ça. Encore une fois, c'est même aujourd'hui difficile. C'est même plus vraiment des membres du kibboutz. C'est-à-dire, d'une certaine façon, aujourd'hui, c'est des gens qui habitent dans des kibboutzim. Je crois qu'il y a aujourd'hui environ 275 ou 270 kibboutzim dans lesquels vivent 140 000 personnes, pas tous sont des membres du kibboutz, et pas tous participent à cette vie communautaire. Et aujourd'hui, il y a peut-être une cinquantaine de kibboutzim qui sont restés encore avec ce fonctionnement, je dirais, de coopérative.
La naissance des kibboutz, est-ce que c'est une sorte d'idéal communiste du sionisme, une espèce de communisme-sionisme idéalisé?
Oui, alors on peut dire que c'est du communisme sans être du communisme comme on l'a connu. Ça n'est pas un communisme au sens marxiste du terme. Mm-hmm. Je dirais que c'est plutôt quelque part, si on voulait chercher les origines idéologiques du kibboutz, il faudrait se référer un penseur ou un homme politique de l'époque de la Révolution française qui s'appelait Babeuf.
D'accord.
Qui avait déjà proposé de ce type de village communautaire. Moi, je dirais que c'est quelque chose entre Babeuf et Rousseau.
D'accord.
Avec une cité ou disons une micro-société dans laquelle tout le monde participe à tout le monde. Et parfois, le kibboutz, c'est plus une vie communautaire de coopération, c'est-à-dire de vie coopérative, où on met tous les biens en commun, où toutes les décisions sont prises en commun par une forme de démocratie directe. Et quelquefois, quand on voit certains films sur le kibboutz, qui sont des films un peu nostalgiques, on voit que vraiment, c'est parfois cette démocratie directe, ça finit par être un petit peu absurde, ça peut aller très très loin. C'est-à-dire que si on vote tout, si on est obligé de voter pour tout, finalement, on en vient à des situations assez absurdes où on vote sur des choses qui sont parfois tout à fait futiles. Et donc, il y a très peu de délégation de pouvoir. Et quelque part, les gens qui ont un très beau livre qui est sorti maintenant en français, qui a été écrit par une femme qui a été élevée dans un kibboutz, qui raconte, ce livre s'appelle « Nous étions l'avenir », et qui raconte justement la façon dont le mouvement kibboutziste, c'était au fond d'abord la déconstruction d'un certain modèle. Le modèle d'une société capitaliste, évidemment, bourgeoise, mais aussi la déconstruction ou le démantèlement d'un certain nombre d'institutions de cette société bourgeoise, comme par exemple la famille. Et donc, il s'agissait de créer un homme nouveau, et par exemple, les enfants n'étaient pas élevés directement par leurs parents.
D'accord.
Il y avait ce qu'on appelait la lina meshutefet, c'est-à-dire la nuitée en commun, où les enfants étaient élevés par tranche d'âge. Et donc, ils ne voyaient leurs parents, et ça a été pendant très longtemps, pendant plusieurs décennies, le modèle de kibboutz, c'était que les enfants étaient toute la journée avec d'autres enfants qui avaient le même âge qu'eux, et des éducateurs, et ils voyaient leurs parents l'après-midi pendant 1h50.
Okay.
Juste 1h50. Donc, la famille traditionnelle, c'est-à-dire avec les parents... Et alors, dans ce livre, là, il y a quelque chose d'intéressant, parce qu'elle parle de ses parents, elle dit « mes parents biologiques ». C'est-à-dire qu'au fond, les parents... Voilà, moi, je trouvais que c'était très dur comme expression, mais au fond, ce n'est pas une expression, c'est la réalité. La réalité, c'est que ces enfants n'ont pas été élevés par leurs parents directement, ils ont été élevés par le kibboutz pour, justement, servir le kibboutz. Et donc, pour être au service de cette société, de cette micro-société. Alors, c'était une société fermée aussi, qui ne voyait pas, finalement, ce qui se passait à l'extérieur. Et donc, les enfants du kibboutz pensaient que c'est eux qui construisaient l'État d'Israël et qu'il n'y avait pratiquement rien à l'extérieur. Il y avait aussi une espèce de fermeture vis-à-vis de ceux qui n'étaient pas comme eux.
D'accord.
Donc, quelque part, c'est une fermeture à l'égard du monde religieux. Une fermeture aussi qui a été extrêmement reprochée aux kibboutzim pendant des années par rapport aux villes qui étaient souvent proches, qui étaient des villes de ce qu'on appelle la périphérie, qui souffraient parfois de pauvreté. Et donc, il y avait une espèce de, je dirais, d'image du kibboutz qui était des Ashkénazes qui vivaient finalement dans une société fermée.
D'accord.
Et qui ne voulaient pas voir ce qui était finalement très proche d'eux. Ça a vraiment créé une espèce de tension. Souvent, par exemple, les écoles, les enfants des kibboutz avaient leurs propres écoles où les enfants des villes d'à côté
ne pouvaient pas aller.
Donc il y avait vraiment une forme de séparation entre deux mondes. Et puis ça a été un laboratoire extraordinaire aussi pour créer toutes sortes de... Je dirais, non seulement un homme nouveau, mais aussi un homme qui était mu par d'autres valeurs.
C'est
notamment
à dire...
la valeur du travail. Et ça, c'est extrêmement important.
Et du travail de la terre aussi.
Du travail de la terre, mais aussi de la productivité. C'est-à-dire que, par exemple, dans tous les kibboutzim, il y avait partout affiché le nombre de tonnes de pommes de terre ou de lait qui avait été...
D'accord.
Et à chaque fois, on essayait de battre les records
D'accord.
précédents. Et on disait, voilà, l'équipe de la crèmerie, je ne sais pas, a fait 2000 litres aujourd'hui ou 2000 litres cette semaine. Et donc, on affichait ces résultats, justement, dont on était parfois très fiers d'être, par exemple... Et puis, il y avait une concurrence aussi entre les mouvements kibboutziques. Alors, au départ, on a évoqué dans une émission précédente la deuxième Aliyah, avec ces idéalistes, justement, qui avaient ces idéaux sociaux, qui voulaient créer une société neuve, à partir de rien. Et donc, on pouvait dans cette société neuve, créer une société où il n'y aurait pas d'inégalité. Mm-hmm. Donc c'était une chance exceptionnelle d'avoir ce laboratoire, je dirais, où on pouvait, tabula rasa, commencer de zéro et donc créer dès le départ une société égalitaire. Ça, c'était extrêmement important. Et pour ça, il fallait que tout soit égalitaire. Mm-hmm. Donc, les enfants n'avaient pas leurs vêtements. C'était des vêtements communs qui étaient nettoyés et ensuite répartis. Les chaussures, tous les enfants avaient des mêmes modèles de chaussures. D'accord. Donc, chaque année, le comité votait par démocratie quelle est la couleur des sandales des petites filles et la couleur des sandales pour les petits garçons et la couleur des pyjamas. Et alors, quand on allait dans ce kibbutz, on avait exactement, dans tous les kibbutzim, pratiquement les mêmes chambres, les mêmes lits.
D'accord.
Donc il y avait cette espèce de volonté d'uniformiser, d'un mode extrêmement homogène.
Et uniformiser également les hommes et les femmes.
On
en avait parlé justement lors de cette émission.
Égalité entre les hommes et les femmes. Alors, il y a quand même des choses qui restent, parce que souvent, les gens qui arrivaient dans le kibbutzim venaient de villes. C'était des citadins qui, tout d'un coup, se retrouvaient dans des fonctions de paysans, et puis on leur demandait d'abandonner toutes leurs habitudes précédentes, et toutes leurs coutumes bourgeoises, entre guillemets. Donc c'était une façon vraiment de changer les choses de façon extrêmement radicale. Je crois que ce radicalisme, on pourrait dire cette orthodoxie, l'a porté beaucoup de préjudice au kibbutzim, à leur image d'une certaine façon, parce qu'à un moment, c'est devenu presque caricatural, je dirais. Alors le premier kibbutz, a été créé en 1909. Alors il y a eu deux premières tentatives. Enfin, c'est un peu. Il y a eu deux tentatives pour créer. Alors au début, on n'appelait pas ça le kibbutz, on appelait ça Kvoutsa,
le groupe.
Et le premier kibbutz a été créé à Degania.
D'accord.
Qui se trouve près du lac de Tibériade. Alors les premiers fondateurs du kibbutz sont des gens qui ne sont pas très connus, mais. C'est eux qui ont eu l'idée. Alors, on va quand même donner leur nom. Il y en a un qui s'appelait Yosef Bertz. Mm-hmm. Il y a un autre qui s'appelait Nachum Hanpilov. Et celui qui est peut-être le plus connu, c'est Bossel.
D'accord.
Yochai Bossel, qui était... sont eux qui ont formé ce premier kibbutz qui, au départ, se trouvait à Kinneret. Mm-hmm. Et qui est devenu ensuite, par la suite, le kibbutz Degania. Donc, cette idée de créer un kibbutz, au départ, c'était vraiment de mettre tout en commun et de tout partager, à la fois le travail, mais aussi les bénéfices et les produits de la terre. Le kibbutz, évidemment, le mot kibbutz est venu un petit peu plus tard, en fait. Je pense qu'au bout de quelques années, on a transformé le mot kvoutsa en kibbutz.
Hein.
Donc c'est devenu les principaux kibbutzim ont été créés à l'époque du mandat britannique. Hein. L'ensemble des quelques kibbutzim qui ont été créés avant, c'est vraiment les premiers kibbutzim créés entre 1909 et 1914. Quelques kibbutzim, mais les principaux kibbutzim ont été créés par la population de juifs qui est venue lors du mandat britannique, c'est-à-dire principalement la 3e, la 4e et la 5e alia.
D'accord. Nous allons faire une petite pause musicale et nous allons écouter Agi Vatron avec Nashuv Machar.
חייל צעיר קונה צף השמש בדרשות כבש ליבו כומר רחב מאוד רחב מהאהובה אבל בזה השביל הרוח תתיימח הרוח המלווה אותו כאח הוא אמר שוב מחר בשביל אל ים הכל חייל צעיר קונטף הדרך לא תקעות בשביל אינו יכול מתור רחוק על מה ליבו יסמח אבל בזה השביל חורקות שתי נעליו והן שרות את שיר כל שעליו עוד משהו ומחר את פרחי הבא שוב מלך אוהבים בשדות
בשביל עליון הקרב חייל צעיר קונה צעב בנתיב הקרב רעים ודם אויבים הרב וכה הרבה מידות המערב אבל בזה השביל השמש עוד תזרח השמש המלווה אותו כאח
עוד נשום ומחר
Michael, peux-tu nous expliquer cette chanson ?
Alors, la chanson, ça parle à Emek Shelley, c'est-à-dire ma vallée. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce groupe musical, c'est une chorale qui est très connue en Israël, mm-hmm. qui s'appelle le Gevatron, qui vient du kibbutz Geva.
D'accord. Hein,
c'est de là vient leur nom. C'est un peu, je dirais, les compagnons de la chanson en Israël.
D'accord.
Mais c'est une vraie tradition. Dans les kibbutzim, il y a une vraie tradition. D'accompagner au fond c'est le travail par des chansons de pionniers. Et donc ce sont des chansons qui parlent de l'agriculture, je peux dire de la terre. Mm-hmm. Donc là c'est ma vallée, on raconte finalement tout ce travail. Et on voit souvent, dans tous les kibbutzim, il y avait des chorales. C'était une des activités culturelles, parfois obligatoires, dans certains kibbutzim, de chanter en public.
D'accord.
Et donc cette fameuse tradition qui a été reprise après, que les gens aiment beaucoup en Israël, c'est pas vraiment ce qu'on appelle le karaoké israélien, c'est ce qu'on appelle le shira betzibur.
D'accord.
C'est-à-dire chanter en public. Et on voit encore aujourd'hui, c'est un peu nostalgique, ces chorales et ces façons de chanter en public. Alors cette chorale du Gevatron, c'est une chorale qui est très connue, avec des chanteurs qui se sont produits. C'est un groupe qui a existé, qui existe encore, je pense, même s'ils ne sont plus tout à fait très jeunes. Mais il y a toutes ces chansons sionistes. C'était finalement, siffler en travaillant, quoi, chanter en travaillant. L'idée, c'était d'accompagner le travail par une forme de D'accord. culture, et que cette culture était vraiment une culture de la terre. Et donc il fallait créer cette culture. Le kibbutz a voulu redonner, je dirais, à la tradition juive, ses anciennes coutumes. Au fond, la religion juive, on le voit, dans toute la tradition, il y a un certain nombre de fêtes qui sont liées au cycle de l'année.
Mmh.
Et donc dans les kibbutzim, par exemple, on a essayé de redonner un sens agricole à certaines fêtes qui avaient pris une autre forme en diaspora.
D'accord, par exemple,
la fête de Shavuot, la fête des moissons. Et donc
D'accord.
forcément, là, on fait vraiment une fête agricole. Ce n'est pas seulement la fête du don de la Torah, mm-hmm. mais comme la Torah est aussi assimilée à quelque chose qui est de l'ordre de la prospérité, et donc c'était lié au cycle de la nature qui était la période de la moisson. Et donc dans les kibbutzim, on faisait une fête de Shavuot qui était une fête purement agricole, avec des chars, avec des tracteurs,
D'accord.
avec toutes ces fêtes agricoles. Pareil pour les fêtes de Sukkot ou Tou Bishvat, par exemple, qui est la fête des arbres. Alors toutes ces fêtes du cycle de l'année, au fond, ce sont des cycles, des saisons, et des cycles qui sont liés à ce qu'on peut appeler la nature. Et donc les kibbutzim ont voulu redonner à toutes les fêtes juives leur sens agricole, leur sens, je dirais, terrien, d'une certaine façon. Et ça, c'est intéressant parce que, alors évidemment, comme il s'agissait de gens qui, pour la plupart, avaient une idéologie socialiste, et pour certains même peut-être laïcs, ou voire certains même peut-être anti-religieux, ils ont justement remplacé, je dirais, tout ce culte, toute une partie du culte juif par un culte ou par des coutumes qui étaient beaucoup plus liés à la terre.
Est-ce que c'est un point commun des kibbutz d'être non religieux, voire anti-religieux ?
Non. Au départ, oui, les premiers kibbutzim étaient animés par une idéologie, je dirais, plus coopérative, pour moi, communiste au sens, je dirais, au sens noble et pas au sens marxiste, d'une certaine façon. C'est-à-dire mettre tout en commun. Mais il y a eu, après les années 20, des kibbutzim religieux qui ont été créés et qui existent encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, je crois que dans les kibbutzim qui continuent à garder l'aspect de coopératives. Il y a plus aujourd'hui peut-être de kibboutzim religieux qui ont gardé cet aspect-là de vie communautaire. Ça existait aussi, et ça n'est pas du tout contradictoire à l'esprit du judaïsme de vivre dans cette égalité et de faire des fêtes dire, à caractère agricole et aussi à caractère religieux. Ça, c'est une vision du kibboutzim. Effectivement, la majeure partie des kibboutzim étaient au départ des kibboutzim liés au mouvement de gauche, disons socialiste, communiste, avec toutes sortes de mouvements. Il y a eu vraiment des scissions des kibboutzim et des kibboutzim qui se sont scindés en deux et qui portent le même nom avec Aleph et Bet. Okay. Et donc, il y a eu vraiment des luttes intestines. D'accord. Idéologiques pour la plupart. C'était très, très idéologique. La plupart des questions étaient analysées, y compris des questions qui étaient liées, je dirais, à la fonctionnement du kibboutz, étaient analysées avec, je dirais, des lunettes extrêmement idéologiques. C'est quelque chose qui a un peu disparu du monde actuel, mais à l'époque, il faut se replacer dans les années 20, une société qui était très idéologique et qui donc parlait beaucoup de débats d'idées et de choses, de questions de principe justement sur la place de la femme, la place du travail, la place de l'éducation. Alors quelque part, évidemment, c'est un cadre qui est peut-être restrictif parce que difficile de sortir du cadre. Mais d'un autre côté, il y avait une forme de liberté qui était un petit peu limitée. Sauf que ceux qui sortaient du cadre étaient sanctionnés. D'accord. Mais parfois, les sanctions n'étaient pas très graves quand même. Donc, il y a quand même une espèce de... Il y avait un côté un petit peu, je dirais, donner de la liberté, mais dans un cadre limitant. Alors, c'est un peu curieux. Ce que raconte Yael Neyman dans le livre sur le kibboutzim, c'est que dès leur plus jeune âge, on leur donnait des choix à faire. Mais le choix, c'était, par exemple, est-ce qu'il fallait donner le nom à la classe, à la tranche d'âge ? On avait le choix entre trois fleurs. On pouvait choisir Marguerite, Narcisse...
Liberté dans la contrainte, ok.
Voilà. Donc c'était une certaine forme de liberté dans un certain cas. Évidemment, toutes les relations, les fratries, tout ça, se sont développées un petit peu différemment. Cela dit, sur l'histoire du mouvement kibboutzique, qui est une très belle histoire humaine, je dirais, c'est une aventure humaine exceptionnelle, parce que elle s'est faite grâce, je dirais, à la réunion de deux forces. D'un côté, un mouvement sioniste qui a donné à ce mouvement kibboutzim les moyens. C'est-à-dire qu'il donnait des terres et qui donnait également des moyens financiers, des subventions, des soutiens, pour permettre à des hommes qui étaient extrêmement courageux, qui ont sacrifié leur vie et qui travaillaient dur, parce que le rythme de travail dans les kibboutzim était un rythme de travail élevé, on se levait très tôt, il y avait vraiment une discipline extrêmement stricte, et des gens qui vraiment n'avaient pas de salaire. Donc il n'y avait pas peu importe la fonction qu'on avait dans le kibboutz, il n'y avait pas de salaire. Le salaire était le même, c'était de répondre à un certain nombre de besoins, mais effectivement, il n'y avait pas beaucoup de place pour les individualités, pour les marginaux, pour les gens qui étaient un petit peu en dehors. Donc ça posait problème, ceux qui refusaient d'être, je dirais, dans le cadre ou de marcher droit, comme on dit. Cela dit, on a formé, grâce au kibboutzim, une génération de gens qui ensuite, dans l'armée et dans d'autres fonctions, ont été des gens extrêmement solides. Et donc, ça leur a donné une certaine force de caractère. D'accord. C'est-à-dire que l'image que l'on a du kibboutz, qui est quelqu'un qui a une certaine force de caractère, qui lui est donnée justement par ce travail de la terre et par ce dévouement, par ce sacrifice pour le groupe, d'une certaine façon, ça a été extrêmement important, je dirais, pour l'image idéale d'une société. Et ça n'est pas pour rien si le kibboutz est devenu peut-être un mythe lié au sionisme, parce que justement, en tant qu'aventure humaine, bon, effectivement, elle n'est plus, je dirais, adaptée à la vie actuelle, enfin, au monde moderne, post-moderne que nous connaissons.
Mais elle reste un symbole.
Voilà, c'est un
sionisme.
Symbole de gens qui sont venus, ont parfois tout abandonné, parfois venaient de familles bourgeoises, et qui ont laissé parfois un métier, parfois une famille, parfois même des biens, pour se sacrifier et donner toute leur vie à une cause, à une, je dirais, dans ce cas-là, vraiment à une idéologie. Alors, il est vrai que, d'une certaine façon, il fallait avoir ce rêve pour qu'il puisse, je dirais, qu'il ait une force mythique pour porter des gens comme ça à aller. Alors il faut savoir aussi que les kibboutzim ont servi le mouvement sioniste, parce que dans certains endroits où il était pratiquement impossible de vivre, parce qu'il n'y avait pas d'eau, parce qu'il n'y avait pas de moyens de ressources de vie, ces gens-là sont partis s'installer dans les zones les plus éloignées, je dirais, du centre,
et on construit
souvent
là-bas,
près des frontières, souvent dans le Négev, par exemple, dans des zones arides ou des zones où il n'y avait aucune, ni agriculture, ni industrie, ni rien, et parti de rien, ils ont construit, ils ont bâti des choses, certes soutenues par le mouvement sioniste, qui parfois achetait la terre ou qui parfois leur donnait les moyens d'acheter des machines agricoles ou d'élever du bétail, etc. Mais malgré tout, parti de rien, ils ont accompli un travail extraordinaire. Donc sur le plan, je dirais, du développement de la terre, ils ont eu un rôle déterminant et surtout, ils ont été, je dirais, le fer de lance du mouvement sioniste. Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord avec l'idéologie communiste, ou babouviste, comme je dis, ou rousseauiste du mouvement kibboutzim. Cela dit, il faut reconnaître que le mouvement kibboutzim a eu, disons, un rôle important dans la création d'un certain nombre d'infrastructures en Israël.
D'accord. Nous allons faire encore une petite pause musicale et nous allons écouter Arik Einstein. À tout de suite.
Thank you.
Michael, peux-tu nous parler de cette chanson?
Non.
D'accord, on va continuer alors.
Non, c'est Arik Einstein et Yitzhak Klepter, quoi. C'est des chansons d'Eretz Israël, quoi. C'est le grand chanteur, c'est notre chanteur national. Mmh. Et donc, il faut mettre dans une, voilà, dans un programme sur le kibboutz sur Eretz Israël, il faut mettre du Arik Einstein. Ça, c'est une chanson classique, voilà, sur Israël.
D'accord. Est-ce qu'il y avait des règles de qu'est-ce qu'un kibboutz, de quelle superficie doit avoir un kibboutz, combien d'habitants doit contenir un kibboutz? Est-ce qu'il y avait ce genre de règles?
Ces règles, c'est assez curieux. Comme il n'y avait pas de modèle au départ, et que ça s'est créé, comme on dit, un peu sur le tard, d'une certaine façon, il y avait une idée d'une vie en coopération, c'est-à-dire une vie commune où on partage tout. Bon. Après, dans l'expérience de vie, mmh. on se rend compte qu'il y a un seuil de tolérance, je dirais. On ne peut pas dépasser un certain nombre d'habitants parce que le principe qui gère un kibboutz, c'est ce que j'appelle le principe rousseauiste, quelque part, de la transparence. Mmh. C'est-à-dire que tout le monde doit être transparent. À savoir, tout le monde doit savoir presque tout sur tout le monde.
D'accord.
Ce qui, à mon avis, a été peut-être des points les plus épineux, peut-être, de ce qui a détruit, d'une certaine façon, l'image du kibboutz, parce qu'à un moment, quand il n'y a plus de secrets, quand il n'y a plus de choses cachées, et que tout le monde sait tout sur tout le monde, la vie devient très difficile. Mmh. Donc, quelque part, on a voulu que tout le monde... Alors, on ne peut pas tout savoir sur tout le monde. Et donc, forcément, lorsque quelqu'un avait besoin de quelque chose, il fallait qu'il vienne devant l'Assemblée Générale exposer son problème. Mmh. Donc, quand quelqu'un devait passer, je ne sais pas, une opération ou qu'il voulait, avoir n'importe quel bien de consommation, il fallait qu'il demande au kibboutz. Et donc, à chaque fois, il était jugé, d'une certaine façon, sur tout ce qu'il faisait. Et ça, c'est devenu insupportable pour beaucoup de gens du kibboutz. Alors, effectivement, au départ, les kibboutzim variaient entre 200 et 700 personnes.
D'accord.
Ça, c'était le nombre à peu près normal des kibboutzim qui ont été créés, disons, entre 1919 et 1939. Après, on a eu des kibboutzim qui ont grandi et qui sont allés même jusqu'à 1800 personnes.
D'accord.
Des très grands kibboutzim, d'accord, comme Givat Brenner, etc., qui sont arrivés à des populations extrêmement importantes et qui, au bon, sont devenus presque comme des bourgades, des villes, et donc n'avaient plus l'aspect de kibboutzim, mmh. était impossible de gérer. Alors, le principe, c'était qu'effectivement, dans un kibboutz, il y a ce qu'on appelle les parties communes, si je peux dire. C'est-à-dire tout le monde mange dans mm-hmm. le même restaurant, ou en tout cas dans la même cafétéria, ce qu'on appelle Cheder Ochel. Mm-hmm. Alors au bout d'un moment, quand il y a trop de personnes, c'est un peu difficile de manger tous dans cette pièce. Il y a l'idée que tous les enfants doivent être élevés ensemble. Alors si les maisons d'enfants, il y a trop d'enfants, on ne peut plus les garder dans la maison d'enfants. Et donc il y avait un certain nombre de règles qui ne pouvait plus être appliqué lorsqu'un kibboutzim dépassait les 700 ou 800 membres. Et évidemment, avec les naissances, ça débordait. Mais ce qui s'est passé dans les kibboutzim, et ça, je pense, est arrivé à la fin des années 60, début des années 70, c'est qu'il y a eu le départ des jeunes.
D'accord.
Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas prévu.
Les jeunes sont partis.
Il y a eu un départ des jeunes. Et la réaction du tnoua kibboutzim n'a pas été extrêmement favorable, parce que pour eux, c'était une forme
de rejet,
d'abandon. Et donc, déjà, même dans le terme, en hébreu, on parlait, lorsqu'un jeune décidait d'aller habiter en ville, on les appelait Osev Kibbutz.
D'accord.
Osev, ça veut dire abandonne. Mm-hmm. Donc, quelque part, c'était connoté de façon négative. C'est exactement comme c'est comme on dit, on quitte une femme, quoi, on quitte un homme. Enfin, c'était Osev. C'est vraiment un mot qui est très fort, très dur d'une certaine façon. Et on n'a pas su comprendre que lorsqu'un jeune voulait, disons, s'aérer ou peut-être partir du kibboutz, ça n'était pas forcément un abandon, voire une trahison. Donc ce rejet qui aboutissait aussi, qui avait des conséquences directes, c'est-à-dire lorsqu'un jeune quittait le kibboutz, il était démuni, finalement. Il n'avait rien. Et même tout ce qu'il avait travaillé ou fait jusque-là. Donc les parents se sont retrouvés devant des situations qu'ils n'avaient pas envisagées. Tout d'un coup, ils ont commencé à se soucier de leurs enfants qui étaient à l'extérieur, et ils n'avaient pas les moyens de les aider. Donc quelque part, le modèle, je posais la question de savoir est-ce qu'on avait une idée. Ben non, on en avait. Le modèle était un modèle extrêmement théorique, mais il n'y avait pas d'autres exemples. Donc on avait aucune autre expérience de ce type. Mmh. Donc on ne savait pas ni ce que devait être un kibboutz, ni ce qu'on allait faire lorsque des jeunes se rebellaient, se révoltaient contre l'idée du kibboutz. Donc quelque part, les réactions, tout le mouvement kibboutzique n'a pas su réagir parfois à cette opposition ou à cette contradiction ou même à certains paradoxes. Donc
il n'a pas réussi à évoluer.
Voilà, il a évolué, mais il a évolué d'une certaine façon à un moment en se privatisant et puis c'est tout.
D'accord, ok.
Alors évidemment, le mouvement kibboutzique, comme il a servi, que je disais, de fer de lance au mouvement sioniste et qu'ils accomplissaient des tâches qu'on pouvait lui confier, comme par exemple le développement de la terre, le développement de certaines industries, le développement de l'agriculture dans certains domaines, et qu'il y avait un mouvement kibboutzique central qui gérait finalement ces besoins et qui disait, voilà, on a besoin d'avoir une industrie laitière, on a besoin d'avoir une industrie textile, on a besoin d'avoir une industrie de chaussures, et donc on répartissait les kibboutz et on leur donnait également des subventions.
D'accord.
Donc tant que le gouvernement qui était en place était un gouvernement socialiste ou travailliste, évidemment, ces gouvernements soutenaient les kibboutzim. À partir de la fin des années 70, les gouvernements ont changé en Israël. Il a commencé à avoir un gouvernement de droite, avec la montée de Begin au pouvoir.
Il ne soutenait plus les kibboutzim ?
Qui, lui, considérait qu'il fallait libéraliser le pays, qu'il y avait une économie qui devait être libéralisée, qu'il fallait donc entrer dans ce qu'on appelle l'ère moderne. Et donc, il a considéré qu'il fallait une partie de cette subvention, les donner non pas aux kibboutzim, qui pour lui étaient les privilégiés, parce que c'est vrai que leurs conditions de vie étaient supérieures à celles des villes de développement à côté. Il a décidé de donner cet argent aux villes de développement, ce qui pouvait se comprendre à la fois sur le plan électoral, puisque c'était les électeurs du Likoud de l'époque, et puis aussi parce que cette population avait été plutôt défavorisée. Et là, je pense qu'il y a eu un faux conflit, mais qui malgré tout, qu'il soit réel ou qu'il soit imaginaire, peu importe, il y a eu une espèce d'antagonisme entre le mouvement kibboutzim et les villes de développement qui étaient à côté, qui, comme je le disais tout à l'heure, pour la plupart étaient habitées en majorité par une population séfarade, qui était tout à fait opposée au communisme, d'une certaine façon, c'était pas dans leur ADN, si je peux dire. Et cette population qui considérait d'une certaine façon que c'était elle qui avait construit le pays et qui peut-être se comportait d'une façon peut-être un peu méprisante, un petit peu hautaine à l'égard de cette population. Et donc ça a créé un vrai antagonisme que probablement les hommes politiques ont dû un petit peu entretenir pour des raisons électorales ou politiciennes. Peu importe, il se trouve que quelque part, le mouvement kibboutzim n'a pas eu dans sa politique au fil des années une attitude qui était une attitude de coopération. Ce que raconte Lehmann dans son livre, par exemple, c'est qu'elle dit, voilà, on allait faire des missions de bénévolat dans les villes de développement à côté, mais on ne se faisait pas d'amis. Ce n'était pas des amis, et on n'avait surtout pas de copains dans les jeunes de ces villes où on allait même travailler en tant que bénévole. On faisait ça pour le kibboutz, et on revenait au kibboutz le soir. Donc, quelque part, le kibboutz n'a pas vu ce qui se passait, les changements de la société israélienne. Le kibboutz a fait beaucoup de choses pour l'État d'Israël, a créé des industries. Et puis, au moment où l'économie israélienne a changé, où elle s'est libéralisée, donc les règles de fonctionnement ont changé, il n'y avait plus de subventions, il fallait que le kibboutz... Donc le kibboutz s'est retrouvé en crise, parfois en crise économique.
Mais il a été forcé à se privatiser,
voilà. Et donc, face à cette situation, la réaction du kibboutz a été de se privatiser. Et donc, de certains kibboutzim qui avaient des industries, ou qui avaient des usines ou des fabriques qui avaient, disons, une valeur commerciale, eh bien, ils ont transformé ça en véritable entreprise capitaliste. Et donc, ils ont même utilisé une partie des terres. Lorsque l'agriculture n'était plus rentable, eh bien, ils ont tout simplement loué ces terres pour, par exemple, héberger des sociétés de high-tech et toucher des loyers.
D'accord.
Donc, ils se sont adaptés, finalement, au changement économique qui s'est produit dans la société israélienne depuis une trentaine d'années. Ils se sont adaptés en se privatisant et en faisant bénéficier les membres du kibboutz de cette privatisation.
D'accord.
Alors ça a profité évidemment aux ceux qui étaient membres du kibboutz, mais ça ne profite pas forcément à ceux qui travaillent dans les kibboutzim, qui sont souvent des travailleurs parfois étrangers ou parfois des travailleurs qui viennent des villes de périphérie et qui sont parfois employés Et disons que les règles sociales ne sont pas forcément celles de l'idéal
d'origine
du kibboutz.
Le kibboutz privatisé, ce n'est plus un kibboutz où tout le monde vit ensemble.
Ça n'est plus un kibboutz. Il y a même des gens aujourd'hui, dans la société israélienne d'aujourd'hui, qui vont s'installer au kibboutz uniquement parce qu'il y a une qualité de vie. Et donc, ils louent une maison, ils payent au kibboutz un certain droit d'entrée pour l'utilisation de la piscine, des pelouses, etc.
D'accord.
Et donc, pour eux, c'est une façon d'habiter à la campagne et d'avoir une qualité de vie. Et c'est de cette façon que le kibboutz se maintient, parce qu'il a su, changer. Mais il n'est plus le kibboutz.
D'accord.
Sur le plan idéologique, aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'il y a... Bon, il existe des kibboutzim, mais ceux qui vivent encore avec les règles coopératives... Ce sont quelques dizaines de kibboutzim qui représentent une toute petite population. Cela dit, je répète encore une fois, le kibboutz, ça a été, dans le mouvement sioniste, il a eu un rôle déterminant.
Mm-hmm.
Notamment parce qu'il a donné aux dirigeants israéliens un certain nombre de personnalités importantes.
Dont
Beaucoup de généraux, Yigal Alon, beaucoup de dirigeants de l'État d'Israël sont nés parfois dans des kibboutzim,
D'accord.
ont été élevés dans des kibboutzim. Et ils sont devenus... certains ont quitté le kibboutz, d'autres qui, après, ils sont revenus. Mais bon, par exemple, même Ben-Gourion a fini sa vie dans un kibboutz. Donc il y avait un lien. Pratiquement tous les dirigeants travaillistes sont passés à un moment ou un autre dans leur vie. Même Golda Meir a vécu dans un kibboutz, qu'elle a quitté après. Yitzhak Rabin aussi a vécu dans un kibboutz. Donc ce lien avec la terre, on ne le retrouve que dans les kibboutzim, aussi un peu dans les moshavim, dont on reparlera dans une autre émission à l'occasion. Mais ce lien avec la terre, cet amour de la terre, c'est vraiment les kibboutzim qui l'ont donné.
Nous allons faire une petite pause musicale et nous allons écouter Meir Ariel avec Yaldati Sheli.
ילדתי שלי, אל תלכי לבדך, אל תלכי לבדך בשדה המוזר. ילדתי שלי, אל תלכי לבדך, קור לך מרחב השדה המוזר. הוא יקסום לך אלף גוון בחידת מרחקה, אך בכל מקום ליבו אבן, ולעינייך זב כזל, זב אכזל. ילדתי שלי, תלכי לבדך, אל תלכי לבדך בשדה המוזר. ילדתי שלי, אל תלכי לבדך, הוא עם קורם ואב בשדה המוזר. הוא ייתן לך רעננה, הוא יביא לך מטרץ, פרדס חנה, קרקור, צללי בננה, רק ליבך הנמרץ, נמרץ נשרץ ונמחץ. אל תלכי לבדך, אינני הולך בשדה המוזר. בחיים עובר שבוע, עוד מעט נרדם,
לרדת אל מבוע אל שלחייך פרדס רימונים כפרים עם נרדים ילדתי שלי אל תלכי לבדך אל תלכי לבדך בשדה המוזהר ילדתי שלי
Michael, peux-tu nous parler de cette chanson, s'il te plaît ?
Ah ben, je ne vais pas tellement parler de la chanson, parce que la chanson, c'est Yaldati Sheli, en fait, c'est une tautologie en hébreu, c'est mm-hmm. Mon enfant.
D'accord.
Mais surtout de Meir Ariel, parce que Meir Ariel, c'est un chanteur très connu en Israël, qui est un petit peu comme ça, un peu sarcastique, des chansons un peu caustiques. Il est décédé il y a quelques temps, mais surtout, il était membre d'un kibbutz. Mm. Et bon, il était assez critique sur le kibbutz, sur la société israélienne. Il y avait un regard comme ça, un petit peu critique, un peu caustique. Mais on l'aime beaucoup. C'est un chanteur qui a vraiment eu... il a quelques chansons qui font partie, notamment cette chanson, qui font partie, je dirais, du canon de la chanson israélienne, ce que nous essayons de faire dans nos émissions de...
Absolument.
Voilà, de présenter un peu ce canon de la belle chanson israélienne traditionnelle à nos auditeurs.
Michael, on a commencé à parler de la religion dans les kibbutz. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces kibbutzim religieux ?
Alors évidemment, au début, le kibbutz était animé par une idéologie, comme je l'ai dit, communiste, peut-être pas forcément marxiste, parfois certains comme Gordon, inspiré de Tolstoï, inspiré de Rousseau, inspiré d'un, je dirais, d'un socialisme direct, démocratie directe, on pourrait appeler ça de la co-gestion, une gestion commune. Et dans les années 30, le monde religieux, qui était un monde sioniste et qui voulait également participer à ce retour à la Terre, a décidé de s'intéresser à l'idée du kibbutz et de voir, au fond, est-ce que les idéaux du kibbutz étaient compatibles avec la religion juive, avec la tradition juive. Et dans ce débat, dans ce rapprochement, on s'est rendu compte qu'un certain nombre de principes du mouvement kibbutzite n'étaient pas opposés au judaïsme, au contraire, qu'ils avaient peut-être même des sources dans ce que j'appellerais la tradition sociale des prophètes, qui est une tradition de justice sociale. Donc l'idée de justice sociale, elle n'est pas en contradiction avec le judaïsme. Bien au contraire, on peut dire que le judaïsme est peut-être à l'origine de la plupart des lois sociales, que ce soit le Shabbat, le repos obligatoire, que ce soit la jachère, avec ce qu'on appelait les années de Shemitah. Et donc, le mouvement religieux sioniste a considéré qu'il était de son devoir de créer également des villages coopératifs religieux. Le premier kibbutz, ça s'appelle Tirat Tzvi, qui a été créé en 1937, qui était finalement, les deux valeurs, c'était Torah et Avoda.
D'accord.
Voilà, c'était le travail et la Torah. Mmh. Et donc essayer de combiner, au fond, une vie juive traditionnelle avec le travail de la terre. Ça a été une réussite, le kibbutz Tirat Tzvi, un très très beau kibbutz qui existe encore aujourd'hui.
D'accord.
Voilà, pour ceux qui connaissent, un des meilleurs pastramis en Israël, c'est fait au kibbutz Tirat Tzvi. Et ils ont su, finalement, trouver, je dirais, une harmonie entre la vision de la tradition juive et tous ces idéaux sociaux de la tradition juive et les idéaux du kibbutz. Évidemment, ils n'ont pas accepté, je dirais, ce rejet de la religion qui existait dans d'autres... dans le mouvement kibbutzique en général. Donc, ils ont créé mouvement propre qui s'appelait le mouvement du kibbutz religieux,
d'accord,
qui existe encore aujourd'hui. Il y a plusieurs mouvements, d'ailleurs, kibbutziques, qui sont un peu concurrents, un peu plus à gauche, un peu plus... Voilà, il y a deux, trois courants de mouvements kibbutziques. Il y a celui qui était lié à ce qu'on appelait le MAPAM, ensuite le MAPAI. Donc, il y a, en gros, aujourd'hui, trois courants au sein du mouvement kibbutzique.
D'accord.
Et ces trois courants, bon, ils sont plus ou moins en relation. Ils coopèrent, ils collaborent dans certains domaines, et dans d'autres domaines, ils ont leur choix particulier. Alors, ce qui s'est passé, évidemment, c'est que dans l'évolution idéologique des kibboutzim, et notamment sur des questions de fond, il y a eu des divergences et des séparations et des dissensions au sein du monde kibboutzim, notamment sur la question de l'éducation des enfants. Mm-hmm. Donc, il y a des kibboutzim qui, petit à petit, je pense que le kibboutz a commencé à disparaître en tant qu'idée lorsqu'on a annulé ce qu'on appelait la duité des enfants en commun.
D'accord.
À partir du moment où on a ramené les enfants dans les familles, on a reconstitué la famille bourgeoise classique, et là, ça a été le début de la fin, si je peux dire, du kibboutz au sens idéologique. Cela dit, après la création de l'État d'Israël, dans les premières années de l'indépendance, et même dans les années qui ont précédé, les 2-3 années, je dirais, entre l'après-guerre, 1945-46, et 1950, il y a eu des dizaines de kibboutzim qui ont été créés et qui se sont créés à des endroits où il n'y avait aucune présence juive, comme le Negev, par exemple.
D'accord.
Et si on a aujourd'hui des juifs dans le Negev, c'est notamment grâce à ces pionniers qui, souvent, quittaient des kibboutzim qui étaient déjà installés dans le nord, en Galilée ou en Emek Israël, et qui venaient s'installer pour créer de nouveaux points. Et quand je dis kibboutz, c'était vraiment au départ quelques baraques et très peu de choses au départ, mais qui ont eu ce pionnierisme pour s'installer sur place. Donc ils ont eu un rôle extrêmement important aussi pour... même pour les délibitiers au fond les frontières d'Israël au moment de la guerre d'indépendance, puisque à partir du moment où il y avait une présence juive, alors évidemment, ils ont souffert. Ils ont été, plusieurs kibboutzim ont été attaqués. Parfois même, les gens qui vivaient ont été massacrés au moment de la guerre d'indépendance, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se défendre. Donc ces kibboutzim ont joué un rôle. Ils ont essayé ensuite, dans les années 50, de jouer un autre rôle, qui était celui d'accueillir des juifs qui venaient des pays arabes, mais ça a échoué. Au fond, il y a eu quelques tentatives pour intégrer des juifs venant des communautés juives du Maghreb, d'Algérie, plutôt du Maroc et du Tunisie, puis ensuite d'Algérie, pour les intégrer dans les kibboutzim.
Comment ça se fait que c'est si difficile?
Je pense que justement, c'était des populations qui étaient plus traditionnalistes, qui avaient beaucoup de mal avec cette idée de vie en commun et de mise en commun des biens.
D'accord.
Ça n'était pas dans leurs habitudes, dans leurs traditions, et donc l'intégration a été un petit peu difficile. Et puis aussi, je pense qu'il y avait une relation difficile entre les anciens et les nouveaux immigrants, comme ça arrive souvent, mais il y avait une relation qui a été ressentie comme un rejet, parce que dans le mouvement kibboutzim, on disait aux gens, au fond, vous devez adopter la culture du kibboutz. Et les gens, ça voulait dire rejeter votre ancienne culture. Et donc, dans les kibboutzim, on disait, il ne faut pas parler... quand les gens venaient de Pologne, de Hongrie, d'Irak ou d'ailleurs, on leur disait, vous ne devez pas parler la langue de votre pays d'origine. Ici, on ne parle que l'hébreu. Et évidemment, ce n'était pas seulement l'hébreu, c'était aussi culture, c'était des coutumes, c'était des rites, c'était des habitudes qu'ils avaient prises dans les familles. Et donc, on ne pouvait pas effacer du jour au lendemain. Les idéologues du kibboutz, au départ... ont fait cet acte révolutionnaire de remettre en cause tout leur passé et de créer un homme nouveau. Mais les Juifs qui venaient dans les années 50 et qui parfois quittaient dans des circonstances difficiles à cause de l'antisémitisme dans les pays arabes ou après la guerre, après la Shoah, ces gens à qui on demandait de rejeter tout en bloc ont eu beaucoup de mal à le faire. Et donc l'intégration de ces populations, des communautés de pays arabes, ex-pays arabes ou musulmans, ont eu beaucoup de mal à s'intégrer dans les kibboutzim. Ils ne sont pas restés. Ou s'ils sont restés, ils sont restés comme les enfants dans des classes à part.
D'accord.
Et donc, ils ont été un petit peu marginalisés. Ils n'ont pas toujours très bien vécu ça. Après, les kibboutzim ont essayé de proposer des services sociaux, c'est-à-dire il y avait beaucoup d'enfants qui avaient perdu leurs parents, qui étaient orphelins, ou dont les parents n'avaient pas les moyens de les élever. Donc, les kibboutzim ont proposé leur aide.
D'accord.
Pour aider ces enfants à s'intégrer à la société israélienne. Mais évidemment, on leur imposait des règles de vie et des croyances, je dirais, qui étaient différentes de celles que les enfants avaient à la maison. Donc ça créait une forme de hiatus entre deux mondes. Et ça a été vécu assez mal, ce qui fait que, d'une certaine façon, le modèle kibboutzique a été rejeté par ces communautés-là. C'est un peu dommage, parce que le kibboutz aurait pu apporter certaines choses, mais d'un autre côté... Voilà, l'intégration ne s'est pas faite. Je dirais comment est-ce qu'on peut dire, le melting pot entre ces deux populations ne s'est pas fait. Après les années, depuis les années 70, début des années 80, le kibboutz a vécu une période extrêmement difficile avec la libéralisation de l'économie en général. Donc pendant une dizaine d'années, le mouvement kibboutzique a souffert, puisqu'il fallait privatiser, mais qu'il n'avait pas les moyens. Beaucoup de gens ont quitté le kibboutz, beaucoup de gens... certains kibboutzim qui n'avaient pas d'industrie très riche ou pas qui avaient une vie économique assez pauvre se sont retrouvés en déficit. Certains kibboutzim ont même fermé, ont même été obligés de vendre, de se disloquer, de se démanteler complètement. Et puis la plupart des kibboutzim ont su trouver les moyens de survivre, je dirais, sur le plan économique et surtout de garder les mêmes services, le même niveau de service pour les anciens. Parce que le problème, effectivement, pour des gens, j'ai connu beaucoup de gens qui ont vécu dans des kibboutz, qui étaient des vrais idéalistes, et qui, tout d'un coup, leur idéal de vie communautaire, communiste, s'effondre. Voilà, c'est un rêve qui s'écroule, donc c'est extrêmement difficile à vivre. Et puis les enfants s'en vont et vivent à la ville. Donc les parents, ce sont eux qui se retrouvent abandonnés, d'une certaine façon, et qui souffrent de cette situation, parce qu'au fond, ils le vivent comme un échec. Et quelque part, le kibboutz, je ne veux pas dire que le kibboutz, c'est pas un échec économique et social, c'est plus un échec idéologique. Mais d'un autre côté, ça a été une tentative extraordinaire, une aventure courageuse de gens qui avaient de bonnes intentions. Mais ça ne suffit pas toujours, les bonnes intentions.
Merci beaucoup, Michael. Nous allons nous quitter avec, encore une fois, la chorale Akivatron.
La chorale du kibboutz, le Akivatron.
Absolument. Merci, Michael. À bientôt.